Eh bien, bonjour à tous, excusez-nous, nous sommes en retard, c'est là, il y a toutes les catastrophes qui arrivent, l'invité qui n'arrive pas, le Zoom qui ne sont pas liés, enfin bref, la totale aujourd'hui. Parfait, ben on y arrive tout de même, Laurence Bonneau est arrivée dans le studio, et j'aurai Carl Zéro et monsieur... Ah, ça y est, j'ai oublié votre nom, c'est monsieur Menton, c'est ça ? Excusez-moi.
Monto Maxime, oui.
Maxime Monto, voilà.
Bonjour alors, à tous.
Alors, respectivement, vous êtes par Zoom. Laurence Bonneau, je la reçois pour un livre qui s'appelle Pédocriminalité, l'hypocrisie française. Voilà, je montre le livre. Personne ne le voit, le voilà. Monsieur Monto, donc... a écrit avec son association, hein, qui est Wanted Pedo, l'association, et ça s'appelle le livre « Pédocriminalité, la guerre contre nos enfants ». Voilà. Et enfin, Carl Zéro, célèbre que je ne présente pas, qui a écrit un livre qui s'intitule « Dans la peau d'Epstein », et c'est aux éditions Télémac. Voilà. Et alors, je vais commencer. Évidemment, je vais traiter chaque livre. Enfin, vous allez traiter chacun de vos livres. Et puis, mais évidemment, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein, on est ensemble, voilà, comme si vous étiez dans le studio. Alors, Laurence Bonneau, bonjour. Vous étiez bonjour. Un petit peu en retard parce que vous avez oublié le code, c'est ça ?
Oui, j'étais devant la porte.
Bon, très bien. Enfin, très bien, si on peut dire. Alors, ce livre... que j'ai dévoré, pour ne rien vous cacher. Alors, c'est la deuxième fois ou troisième fois que je vous reçois, je crois. Vous étiez venu ici pour votre précédent livre.
Hein, oui, qui n'avait rien à voir, hein, Brigade d'intervention.
Oui, c'est ça, BI. Et puis, mais vous avez fait un autre livre sur la
J'en ai fait deux autres.
Voilà, deux autres. Hein. Vous rappelez ça, peut-être toujours au Cherche Midi.
Alors non, le premier c'était au Cherche Midi, oui. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 25 ans.
Les réseaux pédophiles, c'est ça ?
Ouais, le livre de la honte, les réseaux pédophiles.
D'accord.
Après, j'ai écrit « Droits des femmes et des enfants, l'intolérable indifférence ». C'était chez Michalon, en fait, c'est parce que...
Michalon, d'accord.
Yves Michalon m'avait demandé le livre, c'est pas, comme je l'aimais bien, j'avais fait une infidélité au Cherche Midi.
Très bien.
Et puis là, voilà. À nouveau, Cherche Midi.
Entendu, celui-là. Cherche Midi. Bon, éditeur bien connu. Alors, dites-nous ce que ce livre s'est axé évidemment sur la France, hein, alors que la pédocriminalité est évidemment internationale, on l'a vu avec l'histoire d'Epstein, mais là vous traitez surtout des problèmes franco-français, j'allais dire, Macron a dit que c'était Epstein, c'était une histoire française.
Non, il a dit que c'était une histoire américaine et c'est française.
Pardon, oui.
Aussi.
Je confonds. Bien entendu, c'est au moins pour un quart une histoire française aussi. Hein.
Voilà. Enfin, de toute évidence, oui. C'est, enfin, je ne sais pas si c'est pour un quart, un tiers ou la moitié, oui. Mais
bah,
évidemment
que
c'est...
Il y a quatre lieux, hein, Lille, le ranch... Et puis un truc à New York, c'est ça?
Oui, ouais.
Et puis l'avenue Foch à Paris.
C'est ça, il avait un appartement à voilà. Paris, avenue Foch.
Un bel appartement, hein, il recevait des gens très connus. Voilà.
Exactement, puis il y avait un agent de mannequin français qui lui...
Oui, Brunel.
Brunel.
Brunel, c'est ça, voilà.
Qui lui...
Qui, comme par hasard, s'est suicidé en prison, comme tant d'autres.
Oui. Ouais, il se suicide, la putain, il s'est suicidé.
C'est bizarre, il se suicide toujours les gens qui vont révéler des choses, hein. C'est étrange.
C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. La prison est mauvaise pour le moral.
Voilà, de toute
Ceci
évidence.
Ceci dit, Virginie, enfin, une des victimes, vous remarquez, c'est pas bon pour le moral non plus. Elle s'est suicidée aussi, donc.
Oui, ça c'est autre chose. Bon, l'affaire explose un peu aux États-Unis, etc. Enfin bon, bref. Mais bon, là, parlons de la France.
Oui, on en parle beaucoup. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est très franco-français, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la France, on peut commencer à balayer devant notre porte.
Et c'est vrai, pour ça que nous qui donnons tellement de leçons de morale à d'autres pays. Oui.
Donc c'est pour ça que c'est très axé sur la France. Bon, ceci dit, c'est quand même mentionné, enfin je parle quand même de la dimension internationale du phénomène.
Bien sûr.
Qui est, qui est un phénomène qui est très global et qui est massif.
Oui. Alors... Par exemple, moi je feuillette votre livre, je l'ai lu évidemment avec passion, mais on ne va pas raconter le livre, bien entendu, mais je vais prendre quelques chapitres et puis vous allez nous éclairer. Alors par exemple, qu'est-ce que c'est que la CIVISE? C-2-I-V-I-S-E.
Ah ben ça c'est la commission contre l'inceste et les violences sexuelles, enfin cette fameuse commission
aux enfants,
sur les enfants.
Qui a été créée il y a une dizaine d'années, non?
Ah non, je pense qu'un peu moins que ça.
Moins que ça.
De la CIVISE...
2017, il me semble. 2017. 2020, pardon. Non, 2017, Édouard Durand rendait son rapport et 2020, la CIVISE a rendu les leurs. Donc, 6 ans.
D'accord.
Ouais, voilà, ça serait plus, plus ça. Et donc, qui a auditionné quasiment 30 000 victimes, enfin, qui a auditionné beaucoup.
Qui a fait un audit, quoi, en quelque sorte. Ouais.
Oui, mais qui leur a donné la parole. Et en fait, ça a quand même généré une prise de conscience qui était assez importante. Ouais. Ça a eu un impact qui était assez fort. Et d'ailleurs aussi, y compris sur les membres de la commission. Tant et si bien que... Ils sont arrivés à 82 préconisations pour améliorer la situation, dont d'ailleurs, comme à chaque fois, quasiment aucune n'ont été suivies des faits, enfin très très peu.
Oui.
Sinon, voilà,
en France, et ailleurs, quand il y a un problème, on crée une commission qui va enquêter, qui va faire des trucs. Et donc, généralement, rien ne sort
En tout cas, jusque-là, c'était un petit peu fait pour ça, les commissions. Enfin, c'était même un peu une boutade. Quand il y avait un problème qui commençait à surgir et que le politique n'avait pas du tout prévu de s'en occuper et puis n'avait pas l'intention de le faire.
Il était obligé parce qu'on en parlait.
Voilà. Et donc, il se trouve que la CIVISE a quand même coïncidé d'abord avec c'était après la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner.
Oui.
Donc ça qui avait fait du bruit. En fait, il y avait eu un ensemble de circonstances qui faisaient que le sujet commençait à prendre de l'ampleur.
Il y a eu l'affaire Maznev aussi, il y a eu pas mal de choses.
Ouais, mais bon, alors Camille Kouchner, ça a quand même moyennement amusé l'Élysée, parce que Duhamel avait conseillé, avait été un proche, y compris d'ailleurs pendant la campagne...
C'était le président de l'association du siècle,
oui, c'est ça.
Bien connu, que fréquentait tout le monde. Et le vice-président, c'était d'ailleurs Jean Veil, si je me souviens bien.
Ça, je ne sais plus.
Oui,
en plus, moi, les noms.
Et tout ce petit monde se retrouvait d'ailleurs dans une villa à Sanary.
Hein, oui, exactement.
On est d'accord.
On est d'accord. Donc, il fallait faire quelque chose. Oui. Et donc, voilà, donc ils ont... Il y a eu la création de la CIVISE.
Voilà.
Et je pense que personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse du aussi bon travail, la CIVISE.
Exactement, oui.
Et est-ce que les résultats soient repris par les associations, est-ce qu'on en parle autant? Je pense que c'était une surprise, parce qu'en général, oui, on fait ça pour
calmer le jeu, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Une commission, on fait un beau veau machin, un Grenelle bidule.
Voilà.
Voilà, pendant ce temps-là, le temps passe, et puis charge au prochain de s'en occuper. Et là, contre toute attente, en fait, la CIVISE a fait un super boulot.
D'accord.
Donc, et d'ailleurs, on voit que du coup, il y a une certaine méfiance maintenant vis-à-vis des commissions d'enquête qui jusque-là servaient à pas grand-chose.
Ouais.
Parce que là, après, il y a eu la commission sur l'audiovisuel public.
Oui, on a vu ça.
Et du coup, on a d'un seul coup l'Assemblée nationale et le Sénat qui freinent des quatre fers pour qu'il n'y ait pas de commission sur l'affaire Epstein, précisément.
Oui, oui.
Et entre-temps, en ce moment, il y a une autre, à nouveau une commission sur le traitement judiciaire des cas d'inceste et des violences sexuelles sur mineurs, avec des gens, pas mal de gens de qualité d'ailleurs, qui ont été auditionnés, et on voit que les députés ont envie de comprendre, ont envie d'améliorer les choses. Voilà, bon, j'ai quand même entendu, j'ai regardé aussi Éric Dupond-Moretti qui a dit un certain nombre de choses pas vraies. Mais aussi, on voit qu'elles ont envie de faire quelque chose. Maintenant, moi, je me demande ce que cette commission va avoir le temps de faire in fine, parce qu'elle va rendre un rapport qui va être très près déjà des prochaines élections présidentielles. Et puis, c'est toujours pareil. Il y a les préconisations, il y a même des fois, puisque là, on est à l'Assemblée nationale, des normes qui sont émises. Simplement, après, il faut voir comment elles sont appliquées, pendant combien de temps.
Oui, effectivement.
Alors, si je peux me permettre d'intervenir sur tout ce que vous avez un peu abordé. Effectivement, ce que dit Laurent, c'est vrai, ça fait 30 ans qu'on tourne autour du pot, que les politiques ont mis ce sujet et ce fléau sous le tapis et ne s'en sont occupés en fait que quand il y a eu des affaires ultra-médiatisées, comme l'affaire Moutreau, Bétarame, etc., ils prennent position.
Ouais.
Sauf que tout ce qui se passe, tout ce à quoi les familles sont confrontées au quotidien en France, toutes ces petites affaires, on va dire, de faits divers pour eux, ils n'en parlent jamais. Et ça, c'est les statistiques en France, c'est-à-dire qu'il y a énormément de victimes de pédocriminels en France, que personne n'a rien fait, qu'effectivement, il y a eu commission sur commission, et encore aujourd'hui, il y a une commission contre l'inceste et les mères en lutte qui sont confrontées à ce fléau, et aussi les quelques pères, parce qu'il y en a aussi, mais ils sont beaucoup moins nombreux à se battre. Il y a beaucoup plus d'hommes pédocriminels, malheureusement, que de femmes, même si elles existent. Et donc, il y a une commission là-dessus. D'ailleurs, j'ai été entendu en tant que président d'association. J'ai pu faire état de tout ce que nous avons appris, mais aussi demander des chiffres clairs et soumis une requête à la commission. On verra si elle est retenue. Et on a bien sûr fait état du fait que nous n'étions pas pessimistes sur le résultat de cette commission, mais réalistes, à savoir qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, freinent tout ce qui cherche à améliorer la protection de l'enfance, que ce soit des militants, des journalistes, des familles, les peu d'associations qui ont des convictions. Voilà, il y a un lobby qui a toujours freiné des cas de fer pour que rien n'avance au niveau de la protection de l'enfance. On va dire ce qu'il y a de bien, entre guillemets, aujourd'hui, c'est que la parole se libère, les victimes ont le courage de parler. L'Omerta, le barrage de l'Omerta s'est fissuré, et Laurence en est témoin, ça s'est pas fait sans effort de frapper à main nue dans des barrages pour le fissurer, le barrage de l'Omerta, ce qui fait qu'aujourd'hui les victimes parlent. Et bien sûr, on va œuvrer et continuer à œuvrer pour que des gens viennent nous rejoindre et qu'on fasse péter ce barrage de la pédocriminalité pour forcer les politiciens, parce que je rappelle quand même qu'il n'y en a aucun jusqu'à l'heure où on parle aujourd'hui qui a pris à bras-le-corps ce fléau pour le dénoncer haut et fort. Il y a des sites pédophiles, pédocriminels, très actifs en France, d'accord, qui œuvrent sans relâche.
D'accord.
Sans relâche.
Oui. Et puis,
Nous allons voir ça avec votre livre dans un tout petit moment.
D'ailleurs, pour parler des mesures qui sont prises et qui sont pas appliquées. Je parle de l'ordre des médecins, du problème des médecins dans ce livre. Et d'ailleurs, on a des pédopsychiatres qui ont été auditionnés dans cette nouvelle commission, qui expliquent qu'elle continue à être poursuivie devant le Conseil de l'ordre.
Oui.
Quand elles font des signalements et sanctionnées, attention.
Oui, oui.
Ça, c'est quelque chose qui était déjà dénoncé il y a 25 ans. Il y a eu une loi. Il y a eu déjà une commission là-dessus. C'était la députée de Gap qui, justement, avait essayé de résoudre ce problème. C'était de 2003 ou 2004. D'ailleurs, à ce moment-là, les gens, c'est le milieu de la protection de l'enfance et notamment chez les médecins, les gens s'étaient réjouis puisque, en fait, il était écrit que on ne pouvait plus sanctionner disciplinairement les médecins qui faisaient des signalements.
Ouais.
ça a duré ce que durent les roses, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation devant le Conseil de l'Ordre pendant peut-être 2, 3, 4 ans. Mmh. Et après, c'est reparti comme en 14.
Le Conseil de l'Ordre, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, parce que par contre...
On a vu avec le Covid, par exemple, vous voyez. C'est...
Oui, et puis parce que par contre, quand ils ont leurs pères qui sont accusés de pédocriminalité, là, c'est beaucoup moins grave.
Il oui.
faut quand même voir que dans l'affaire Le Squarneck, avec le oui. chirurgien, il a quand même fait des oui. centaines de victimes.
Le Parce code... que justement, dans ce livre, vous donnez des exemples très précis et des histoires de, oui. absolument tragiques, comme celle bah que vous évoquez.
Oui, pour illustrer ce qui
donc,
se passe, en
parfois,
fait.
Parfois, vous avez été très présent et vous avez vous-même interrogé les victimes ou les... Enfin, vous êtes partie prenante en tant que journaliste très souvent dans ces histoires,
j'écoute,
dans différentes histoires.
Effectivement,
voilà.
J'écoute tout le monde, donc j'écoute aussi les victimes,
voilà,
les
voilà.
avocats, un petit peu tout le monde. Mais donc, pour terminer sur le Conseil de l'Ordre, je veux dire, ils ont quand même voté, enfin, c'était le Conseil départemental pour le Squarneck,
ouais.
À l'unanimité moins une abstention, que télécharger des documents pédopornographiques n'était pas une violation du code de déontologie, ce qui est quand même extraordinaire.
Ouais.
Et d'un autre côté, ils vont poursuivre des médecins qui font des signalements pour immixtion dans la vie de famille.
Ouais, oui, c'est ça.
Oui, sauf que dénoncer un inceste ouais. sans s'immiscer dans la vie de famille, c'est juste un chouïa compliqué,
ouais,
quoi.
Ouais. Et comme on dénonce aussi des femmes qui ne présentent pas leur enfant... elles sont condamnées parfois parce qu'elles n'ont pas présenté l'enfant au père violeur, par exemple. Enfin,
oui,
c'est un truc intolérable, ça revient.
Elles perdent même la garde des enfants,
voilà,
très
voilà.
très souvent.
Et parfois, elles sont obligées de partir à l'étranger.
Et oui. c'est très récurrent dans les dossiers, c'est-à-dire que lorsqu'une mère dépose plainte pour un cas d'inceste, il y a même les policiers, les gendarmes, tout le monde lui dit en off, surtout ne le remettez pas. Hein. Ah bah bien sûr, ils vont dans ce sens-là. Sauf que la procédure derrière tombe pour non-représentation d'enfants et elle est condamnée.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et c'est toujours quasi systématique, quoi. 9 dossiers sur 10 sont traités comme ça.
Ouais. Merci. Eh bien, écoutez, justement, nous allons passer à votre livre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association Wanted Pedo
et
qu'est-ce que vous y faites? Voilà, quelle est votre action, hein, puisque ce livre est édité par cette association, dont vous êtes le président,
alors,
je rappelle.
Exactement, je suis le président fondateur de l'association, créée en 2014. Le livre n'a pas été écrit par moi, mais c'est un travail collectif et la main qui a rédigé ce bouquin est la psychologue de l'association avec laquelle je travaille
D'accord.
depuis 12 ans maintenant.
C'est bien rédigé, je veux dire. Il n'y a pas de faute. Je trouve que
il reste quelques coquilles. Si,
ouais,
on en a retrouvé encore.
Il y en a toujours. Il y en a toujours dans tous les bouquins,
voilà.
Dans les miens aussi. Bon. Mais j'ai trouvé étrange l'interlignage. Vous voyez, c'est sans doute, ça permet d'avoir un beaucoup plus gros volume, mais. C'est un peu bizarre.
C'est la mise en page. La mise en page, en fait, on est en auto-édition et on n'avait pas trop le choix. C'était soit très tassé, soit aéré.
Ah,
et en fait, on a préféré prendre le deuxième choix.
D'accord.
Oui, on a préféré prendre le deuxième choix pour éviter déjà que le livre ait, on va dire, un sujet assez lourd.
Oui,
si en plus tout est tassé, écrit en tout petit, c'est compliqué à lire. Donc on a pris ce choix-là, en fait.
Oui.
Mais nous aussi, malheureusement, on n'a pas trop eu le choix sur la mise en page.
Enfin, je suis un peu exigeant parce que j'ai été longtemps éditeur, vous savez. Alors c'est un peu.
Trouvez un éditeur qui veut bien nous éditer, puisqu'on est en auto-édition.
Non, malheureusement, voilà. J'ai autant de mal, ayant été éditeur, j'ai autant de mal que vous, vous voyez, à éditer.
Mais j'ai des personnes qui nous ont contactés déjà.
Ah, bah c'est bien.
Alors,
écoutez-moi, je
vais
revenir. Pour pas attaquer le même sujet. J'aimerais, moi, je l'ai lu, j'ai reçu votre livre très très tard, avant-hier, hein, donc je l'ai lu malgré tout, mais pas la toute dernière, pas les conclusions. Mais enfin, il y a un aspect qui m'a intéressé tout particulièrement, c'est le fait que c'est un livre, c'est une espèce de comment dirais-je, de mode d'emploi, hein. C'est presque la pédocriminalité mode d'emploi. Enfin, en défense, hein, j'entends bien. Bon. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un livre pratique. Alors, vous dites, vous expliquez évidemment les faits, qu'est-ce que c'est, tous les termes, la pédocriminalité, et un peu un historique, hein, c'est la première partie du livre. Et ensuite, comment s'en prévaloir ? C'est-à-dire, c'est des conseils, hein, il y a beaucoup de conseils aux parents en particulier. Qu'est-ce qu'on a un enfant ? Comment il réagit ? Comment il faut le prévenir le fait qu'il puisse être agressé par des pédophiles, puisque on est dans un monde...
La prévention.
Voilà, c'est exactement. La prévention, puisqu'on est dans un monde où, évidemment, ils sont partout. Et dès qu'il y a enfant, il y a pédophile.
Multiples dangers. Hein?
Voilà. Donc, salle de sport, lieu de culte. Moi, je dirais lieu de culte, parce que tout le monde dit l'église, les curés, mais je ne vois pas pourquoi ce serait réservé aux catholiques pratiquants. Vous voyez, c'est,
ben, bien sûr.
C'est encore un truc.
Ça ne l'est pas. Hein. Mais, par exemple, j'ai des affaires et des affaires extrêmement graves chez les bouddhistes, par exemple.
Ben voilà. Bon. Alors justement, et j'imagine que
non, mais le pédocriminel n'a pas un seul visage.
Oui. Alors voilà. Justement. Mais c'est ce qui est bizarre, c'est que les journalistes ne parlent que des catholiques et des chrétiens au plus large. Et vous avez remarqué qu'il n'y a jamais de pédophile dans une synagogue, et il y en a encore moins dans les mosquées. Oui, c'est un peu étrange. Et je pense que là, il y a un filtre. Il y a un filtre très net, journalistique et médiatique. Voilà, c'est pourquoi je voulais soulever ça. Bon, maintenant, alors, les conseils, par exemple... Conseil, enfin, c'est un livre que je recommande vivement aux parents, donc en particulier, parce que ce sont des conseils. D'abord, ils vont comprendre ce qu'est la pédocriminalité, l'attaque sur les enfants. Et là, on parle des enfants essentiellement, et parfois en très bas âge, hein, à la maternelle, et même les bébés. Non, c'est effrayant, c'est monstrueux. Eh bien, essayer d'éduquer son enfant. En lui disant, enfin moi j'ai employé un terme, fais gaffe, attention, il y a des choses qu'il faut dire non, et il y a des choses voilà que tu dois pas admettre, même d'un professeur, même d'un enseignant, même d'un prof de sport, etc. Il doit pas te toucher, te tripoter, etc. Enfin ça c'est des choses. Évidemment il faut être très intelligent. Tout en nuance, parce que c'est pas facile d'expliquer ça à un enfant de 4 ans, hein. Vous comprenez.
Alors,
bien.
Justement, c'est ce qu'on explique dans le bouquin. Ouais,
voilà.
On explique par tranche d'âge comment en parler aux enfants.
Voilà.
Avec des mots adéquats à sa psyché, à son âge, pour lui expliquer les dangers du mieux possible, mais sans le traumatiser ou lui sortir des mots abracadabantesques. Simplement lui dire les dangers, ton corps t'appartient, personne n'a le droit de le toucher. Voilà. Lui expliquer aussi qu'il est en confiance, que s'il se passe quelque chose, il peut, voilà, il faut le dire tout de suite, faut pas, voilà, plein de conseils comme ça, bien sûr, et selon les tranches d'âge, voilà, ouais. Parce qu'on n'en parle pas aux enfants selon les âges de la même manière.
Évidemment.
Puis les dangers s'accentuent en grandissant, on va dire, à l'adolescence, ouais. Ils ont plus accès aux réseaux sociaux, donc il y a d'autres dangers. Etc.
Alors, il y a un truc que vous détaillez aussi, c'est très chouette, c'est les peines encourues, enfin, qui sont théoriques, parce qu'elles sont malheureusement rarement appliquées, et vous donnez l'échelle des peines. Hein. Alors, les peines d'emprisonnement, en ce qui concerne les agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, toute agression sexuelle commise sur un enfant de moins de 15 ans est punie d'une peine de 10 ans de prison, et d'une amende pouvant atteindre 150 000 euros. Cette peine peut être portée à 20 ans de réclusion criminelle en présence de circonstances aggravantes, telles usage de violence, de menaces ou d'abus d'autorité. On pense à certaines personnes, hein, qui sont très haut placées en France, actuellement. Bon, en cas de viol, acte de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Mais elle peut aller jusqu'à 30 ans en cas de circonstances aggravantes. Si le viol a entraîné la mort de l'enfant, le coupable risque la réclusion criminelle à perpétuité. Qui d'ailleurs est théorique parce qu'il n'y a pas vraiment de perpétuité en France. Hein, sinon, voilà.
Non, mais même les peines de 20 et 30 ans ne sont jamais appliquées. Voilà. Laurence pourra le dire. Il faut que le mec ait violé 30 enfants, comme le Squarneck, enfin, centaine de gosses.
Ouais. Même pas.
Multirécidiviste oui, pour prendre ça, quoi.
Faut surtout qu'il ait récidivé.
C'est ça, voilà.
Au bout d'un moment.
Et puis, il y a toujours le juge d'application des peines qui se dit ah, il s'est bien conduit, machin, allez, 7
oui,
ans, 7 ans.
Il est malade, ou il est trop vieux.
Et je tiens à préciser qu'il y a quand même 9 établissements spécialisés. Qui recueille 85% d'agresseurs sexuels et de violeurs.
Ouais,
9
ouais.
établissements en France, comme ça, spécialement pour eux. Quoi.
Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, les peines en cas de cyberpédophilie et de pédopornographie, en ce qui concerne, donc il s'agit d'avoir des films, des images, etc. Bon, et des collectionneurs, hein. Ceci concerne la consultation et la détention d'images pédopornographiques. Le fait de détenir, consulter ou diffuser des images pédopornographiques, photos, vidéos, dessins, etc., est puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En cas de production, diffusion des réseaux, comme via Internet, Dark Web, etc., la peine peut atteindre 7 ans de prison et 100 000 euros. Bon, en fait, ces peines sont pratiquement jamais...
C'est des peines théoriques, en général. Ils prennent du sursis. Alors,
carrément du sursis, oui.
Je veux quand même préciser, juste, il y a eu une évolution de la jurisprudence.
Ouais.
Là, pour le coup, c'est pas... Pour une fois qu'il y a un truc bien, on peut le souligner.
Ouais.
Ce qu'on appelle le live streaming... C'est-à-dire le fait de...
C'est-à-dire
ouais. Alors, le live streaming, c'est quelqu'un qui est derrière sa webcam, et donc qu'on voit en direct, qui peut être dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde.
Ouais.
Et donc, ça a explosé, ça existe depuis longtemps, hein, le phénomène de la pédocriminalité et du live streaming.
Ouais.
Mais ça a vraiment explosé pendant le Covid, parce qu'ils ne pouvaient plus voyager,
ouais.
Les gens ne pouvaient plus sortir. Mmh. Et donc, en fait, c'est payé... pour revoir en direct ce qu'on demande. Donc, un viol d'enfant, des tortures d'enfants, enfin, il y a des tas de trucs absolument épouvantables. Et jusque-là, en ce qui concerne, par exemple, les viols d'enfants, jusqu'à relativement récemment, c'était considéré comme du visionnage ou du téléchargement de documents pédopornographiques.
Ouais.
Ce n'est plus le cas. Il y a une évolution de la jurisprudence. C'est considéré maintenant comme une complicité. Et ça change tout. Parce que le complice, un complice d'un crime, enfin, il encourt la même peine que la personne qui commet le crime.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que les magistrats maintenant considèrent qu'il n'y aurait pas eu le crime s'ils n'avaient pas été là, qu'ils étaient les instigateurs, ce qui est vrai.
D'accord.
Donc, la peine encourue, évidemment, est beaucoup plus importante, puisqu'à partir du moment où ils demandent un viol d'enfant, ils vont être poursuivis pour complicité de viol et risquer la même chose. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours assez théorique.
Ouais.
Mais enfin... c'est une évolution de la jurisprudence qui est plutôt favorable, il faut la souligner, parce qu'il y a des évolutions législatives, c'est ce que j'écris, elles ne sont pas toutes favorables.
Mais loin de là. Effectivement. Et alors, d'ailleurs, il y a aussi une chose que vous soulignez là, dans votre livre, c'est la non-dénonciation d'un crime. Hein. La non-dénonciation d'un crime est condamnable est un crime, en fait. Enfin, c'est une complicité de
le
crime.
Le souci en France, c'est que quand quelqu'un dénonce ce type de crime, en fait, soit on lui fait comprendre qu'il faut se taire quand c'est la famille ou les enfants.
Ouais.
Et pareil pour des associations, pareil pour des journalistes d'investigation. Laurence peut vous témoigner qu'elle n'a pas reçu que des fleurs et des compliments, hein, loin de là.
Certes,
des bâtons dans les roues, des couteaux dans le dos, des trahisons, enfin voilà, c'est quoi le parcours d'un militant en France. Faut savoir, quelque chose dont on est assez fier, c'est que pendant des années, on a tiré la sonnette d'alarme sur les établissements scolaires, y compris des établissements scolaires parisiens, et à force d'avoir mis tout ça sur le tapis, en fait, les politiciens, aujourd'hui, la cocotte est pleine et elle explose.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a peu des cas d'agression sexuelle parce qu'ils ont laissé rentrer sans contrôle, sans formation, des renards dans le poulailler, c'est-à-dire dans les écoles françaises.
Comme par exemple à Paris, d'ailleurs, en l'occurrence.
Ah oui, non mais malheureusement, il n'y a pas qu'à Paris, c'est ça, ça se passe partout, parce que les contrôles ne sont pas faits.
Mais
là,
enfin,
on parle de Paris.
Attendez, là, on a une élection à Paris. Je ferai remarquer qu'il y a un maire qui a été élu, hein, si je ne m'abuse, Eh bien, ce maire était en poste pendant tous ces scandales. Hein.
Oui, mais il a raison.
Ça ne l'a pas empêché d'être élu.
Oui, c'est partout en France, mais de toute façon, il y a un moment, il y a une indifférence, il y a un truc que je ne comprends pas, parce qu'il faut se rendre compte. Moi, je m'en rappelle, il y avait, si on prend l'éducation nationale, là, et pas seulement le périscolaire d'ailleurs, bon, il y a d'une affaire en fait. C'était un enseignant, donc il revenait d'Angleterre et il venait de purger un peu plus de 2 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur. Bon, il revient, il y a une réunion au rectorat pour savoir si on allait le réintégrer en France, à l'école. Et ben vous savez quoi ? Il a été réintégré. En mode, ouais, de toute façon, les Anglais, ils exagèrent un petit peu avec ce genre d'affaires. Et moi, je me rappelle d'une décision de justice, elle est pas toute neuve, mais elle m'avait tellement choqué que je m'en souviens encore. Elle était de 2006. C'était 2006 ou 2009, non, il me semble que c'était 2006. Où, donc, dans le jugement, donc c'est pareil, c'est une personne qui est condamnée pour... détention, téléchargement de documents pédopornographiques et tout, voilà. Et où c'est écrit dans le jugement noir sur blanc que on ne va pas inscrire sa condamnation à son casier judiciaire. Il est prof, hein, enfin il y a un style. Parce que compte tenu de sa profession, ça pourrait nuire à sa carrière. Et ça constituerait une double peine.
Et là, c'est insensé. C'est-à-dire qu'on ne pense pas aux enfants. On pense uniquement aux criminels.
Le pauvre, déjà, il va prendre quelques mois de prison avec sursis. Il est déjà puni. Alors, on va pas en plus le mettre des bâtons dans les roues pour son boulot.
Aujourd'hui, nous versons tout ça à la connaissance du public. Mais moi, j'ai connu un temps dans ma jeunesse quand j'étais au lycée. J'ai rencontré, j'ai vu de mes yeux vus c'était plus qu'un professeur, c'était un surgé général qui tenait des études, hein, enfin c'est-à-dire il faisait office de pion de temps en temps, et il demandait toujours à une petite gamine, c'était mixte, hein, c'était un lycée mixte national, je ne dirais pas le nom du lycée, hein, parce que bon, eh bien ce type là était au tableau, il disait venez ma petite fille au tableau machin, et il lui faisait faire ses devoirs comme ça et il lui tripotait les fesses, vous voyez, pendant ce temps là devant toute la classe. Mais à l'époque, si vous voulez, vous savez, la position d'un professeur à l'époque, on ne mouvetait pas. Personne, aucun élève n'aurait mouveté, n'aurait dit à ses parents ce qui se passait. Et c'est pareil.
Est-ce que je pourrais rebondir sur ce que vous dites et ajouter une petite info complémentaire que je suis sûr que les gens ignorent totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un pédocriminel a purgé sa peine, quand il a été incarcéré, par exemple, lorsqu'il sort, ils font directement, 90% des pédocriminels, ils font 2 requêtes. La première, ils demandent à leur avocat d'écrire au parquet pour faire gommer leur condamnation de leur casier.
Ah oui.
Donc, ils gomment leur condamnation, premier point.
Mais il n'y a pas un truc obligatoire, une inscription au criminel pédophile, il y a un fichier national.
Oui, il y a un fichier.
Ça, c'est obligatoire. D'accord.
Mais dans leur casier.
Oui, c'est ça. Ça, c'est pas accessible à l'employeur,
voilà. Par exemple. Donc, deuxième point, si des articles de presse mainstream sont sortis parlant de son affaire, citant son nom, il contacte via son avocat les presses en question en disant voilà, retirez les articles de presse, etc. Moi d'ailleurs, je suis bien placé, j'en ai reçu au moins 160 de courriers d'avocats comme ça, et les articles sur notre site restent parce qu'il est hors de question qu'on oublie ce qu'ils ont fait aux victimes, et ça permet surtout aux gens, pour un aspect préventif, de savoir à qui ils ont affaire autour de chez eux.
Oui, parce qu'il faut
et
savoir.
Et maintenant, je voudrais surtout dire comment on fait aujourd'hui. Quel verrou on doit mettre en place pour assurer la probité des gens qui travaillent aux postes importants en France, mais surtout aux postes qui sont proches de mineurs.
En contact
parce qu'on a vu
des
le
enfants.
Juge Bailly, le juge Bailly, le juge Broily, le patron de la DGSE, des juges des enfants, des gendarmes et des policiers qui sont chargés du recueil de la parole des victimes condamnées eux-mêmes pour pédopornographie, des pédocriminels dans les écoles. En fait, c'est à ça qu'on doit réfléchir, nous, les citoyens. Ouais. C'est quel verrou on doit mettre en place pour vérifier la probité des gens qui sont en charge de postes Important.
Et même et des associations qui prétendent parfois défendre
bien
les
sûr,
enfants, etc.
Bien sûr.
Vous parlez des articles. En fait, Wanted Pedo, je les connais depuis longtemps. Et juste pour préciser que, en fait, c'est aussi sur le site, c'est aussi une base documentaire. Il y a une base documentaire qui est très intéressante dans le site. Il y a Pédoponis et Wanted Pedo. Et Karl, t'es bien silencieux, ça te ressemble pas, t'es malade.
Non, je suis pas malade, je vous écoute. Je vous
ah, il est là, Karl, mais je savais même pas que t'es arrivé. Salutations.
Non, ah, mais on va parler de son livre. Rassurez-vous, on va parler de son livre.
Ah, je savais pas que tu étais là, Karl, pardon.
Mais si, si, ah, il est là. Il est là, il est dans un magnifique décor.
C'est pas un décor, c'est ce qu'on appelle un beau window.
Ouais, c'est oui, c'est ça. C'est chez vous, j'imagine.
Non, je suis tout à fait là, je vous écoute. Vous savez que je vous aime beaucoup tous les deux. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a eu un moment, j'ai failli intervenir sur la commission là, qui a lieu en ce moment où tu es passé, Maxime. C'est qu'il y a eu une algarade assez marrante. Lorsque Dupond-Moretti est venu parler, il y a une députée qui lui a posé des questions directement sur Outreau, en lui rappelant qu'il avait fait faire pipi sous elle une petite fille en l'interviewant pendant 6 heures.
Effrayant.
Et là, à la surprise générale, Maude Petit, que je considérais jusqu'à présent comme une députée courageuse et engagée, a demandé à cette personne, députée elle-même, de se taire en disant qu'on ne pouvait pas dire ça à M. Dupond-Moretti.
Elle a pas dit exactement ça. Elle a dit, en gros, elle a dit, faut avancer. Si vous continuez tous les deux, je sais plus exactement. Je vais lever la séance.
Ah d'accord.
Ah oui, non mais c'est pas au contraire. Moi je trouve ça pas courageux du tout parce que c'était pas le moment de lever la séance, c'était le moment de lever un lièvre, qui est le lièvre de l'escroquerie d'Outreau. C'était le moment au contraire de porter le fer. Mais comme toujours dans ces commissions, on est entre gens de bonne compagnie et on dit jamais un mot plus haut que l'autre. Ce qui fait que les enfants pendant cela continuent à se faire violer à tour de bras par des pédocriminels. C'est comme toujours en réalité. Voilà, bon. Maintenant, je retourne dans ma grotte. Je vous laisse.
Non, ça va
être. Non, mais j'ai peu d'espoir, hein, moi aussi, sur des avancées. Nous, ça fait des années qu'on compte que sur les citoyens. Effectivement, Laurence disait, on est à presque 17 000 articles sur notre site, hein, ou 14 000, pardon. 14 000 articles. Donc, c'est une véritable base de données. On est à presque 1 téra de données pour juste notre serveur, quoi.
Eh bien, on va passer maintenant notre bobino publicitaire pour la radio. Écoutez bien, suivi de la musique. Une petite musique.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Sonnelle tout à coup, sans sanglante et des sangs, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie, par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne.
Eh bien, merci Brassens pour cette belle chanson. Alors, Carl Zero, nous allons vous passer la parole maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Alors, c'est un roman qui s'appelle « Dans la peau d'Einstein », donc publié aux éditions Télémaque. Je montre le livre avec la jolie photo du criminel, un peu abîmé, ses heures de prison qu'il a passées l'ont un peu déglingué. Bon, enfin bon, mais c'était un beau garçon avant. Alors, il y a un message. Oui. Oh là là, un long message. Bonjour madame, monsieur, chers amis. Quelques affaires de pédocriminalité, d'inceste éclatent. Affaire Richard Berry, Serge Gainsbourg, famille Gainsbourg, etc. A lancé Cécile C, propos repris par TDN, mais il y a une liaison. Bon, écoutez, c'est assez long. Je remercie grandement Claude Val. Je lirai ça à tête reposée, parce que là, nous sommes serrés du point de vue horaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, Carl Zero ? C'est un roman, donc. Et pourquoi un roman ? Vous n'avez jamais écrit de roman, je crois.
Non, jamais.
Continuez.
Je n'ai pas envie d'écrire de roman, mais le fait d'écrire un roman me permettait deux choses. D'abord, de mettre dans la peau de ce pédocriminel.
Oui.
Et d'autre part, me permettait de ne pas être attaqué ensuite, puisque la liberté du romancier, c'est qu'il a le droit de raconter ce qu'il veut.
Oui, même s'il nomme les gens et les faits, etc., qui sont réels.
Et même s'il y a... Et même si à la fin du roman, vous avez 40 pages de documents qui expliquent où j'ai puisé mon inspiration.
D'accord.
Je trouvais que c'était, parce que finalement, cette affaire Epstein, on en entend parler de temps en temps, et puis plus, et puis à nouveau, et puis plus. En fait, c'est au gré de ce que le gouvernement américain sort comme dossier sur Epstein.
Peu à peu, on en est à 20% actuellement, à peu près.
Certains disent 2% seulement, donne une idée du nombre de documents qu'il y a.
Oui, effectivement.
Mais c'était une manière d'essayer d'expliquer de l'intérieur un système que nous venons d'évoquer avec nos amis Maxime et Laurence, mais qui est un système également international, qui donc, au travers de cette affaire Epstein, apparaît, je dirais, de façon plus énorme, plus claire et de plus indéniable, dans le sens où... pendant des années, quand on a essayé de parler de réseau pédocriminel, on nous a toujours opposé le fait que ça n'existait pas, que c'était un fantasme de journaliste. Drôle de fantasme.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte, grâce à cette affaire, que les médias commençaient à oser parler de réseau pédocriminel et que nous n'avions plus qu'à raconter de l'intérieur ce qui se passait dans ce fameux réseau, afin que tout le monde comprenne bien.
Oui.
D'accord ?
Alors, oui. Alors, donc là, Epstein, personnage du roman, de votre roman, est dans sa prison, et c'est un peu comme s'il écrivait son journal, ses mémoires, quoi. C'est ça, un peu. Hein. Est-ce qui vous permet de révéler toutes les choses. Alors, il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est le côté, vous savez, ce qu'il faisait dans le fameux ranch, là, je ne sais plus où c'est en Arizona, non, je ne me souviens plus où c'est.
Et là, Nouveau-Mexique.
Oui, au Nouveau-Mexique.
Nouveau-Mexique.
D'accord. Et là, vous soulevez, vous détaillez bien, c'est assez intéressant, c'est le côté eugénisme. Vous voyez ce que je veux dire. Bon,
alors il
s'avère que vous allez le raconter, mais il s'avère que ce monsieur était se croyait donc comme beaucoup d'autres faisant partie d'un peuple élu, n'est-ce pas, et même d'une race supérieure. C'est très clair. Enfin, je pense. Alors ça, c'est vrai. Il l'a affirmé lui-même ou quoi?
Ah oui, bien entendu, d'où ces rapports avec un nombre considérable de grands scientifiques mondiaux.
Oui, c'est ça, qu'il a plus ou moins financé d'ailleurs souvent, ouais.
Ah, plutôt plus que moi, il finançait très largement toutes sortes de scientifiques, et le but de ces recherches était d'aboutir à une race de surhommes. Alors évidemment, on pense au délire nazi. Ce qui est très curieux dans son histoire, c'est que...
Autre peuple élu,
Oui, il revendiquait le fait que les Ashkenazes soient ce peuple élu, oui. Et non pas les Germains ou les Saxons, comme du temps d'Hitler.
Oui, oui.
Donc c'est très surprenant.
Parce que tu veux dire des nazis au-dessus des nazis, quoi ?
Non, c'était une question de racial, une question raciale. C'est-à-dire qu'il se considère descendant de Turcs, en fait. Hein. C'est ça. Oui, et qui n'a rien à voir avec les mecs d'Afrique du Nord qui sont absolument méprisés. Hein.
C'est-à-dire qu'ils
sont comme les Bédouins. Quoi. Ouais.
Les Ashkenazes descendent du peuple Khazar.
Voilà,
qui est
ça c'est vrai.
Qui a choisi d'être la judaïté.
Donc c'est des convertis choix, en quelque sorte.
Ce sont des convertis.
Voilà.
Et ils n'ont pas grand-chose à voir avec les peuples juifs qui étaient en Palestine du temps de Jésus, etc.
Les Hébreux.
Rien à voir.
Les Hébreux.
Ouais. Voilà, rien à voir.
Et, alors,
et lui considérait que ce peuple-là devait dominer le monde et assouvir le monde. Et donc il créait une race de surhommes. Et parallèlement, il réfléchissait à comment limiter l'expansion des autres peuples, en favorisant évidemment la mortalité, les famines, les guerres, les épidémies, tout ce qu'on veut, et aussi d'essayer d'abêtir au plus possible, de façon génétique, ces peuples destinés à devenir des sortes d'esclaves. Donc on est carrément dans un très grand délire.
Oui, un délire mondialiste et dans lequel peuvent se rejoindre certes des gens qui prônent le mondialisme, qui prônent la supériorité de gens exceptionnels qui doivent absolument dominer les autres, etc. Retour à l'esclavage.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que décrit Karl, en fait, on y est quasiment. Hein, en fait, les famines, les guerres. Regardez les agriculteurs, les pauvres, ils vivent même plus, les Français non plus.
Oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Sans
en fait, ce projet,
l'affaire du Covid, par exemple,
exactement.
Qui était une manœuvre d'assouvissement aussi évidente. Hein, et regardez en Israël actuellement, quel est le gouvernement? Netanyahou.
Il n'y a pas un mandat d'arrêt normalement. Cet homme ne devrait pas être arrêté depuis longtemps. Qu'est-ce que fait le monde en fait? C'est un bon exemple du pouvoir.
Vous savez, ils n'ont aucun pouvoir. Hein. Voilà. Regardez les casques bleus qui sont au sud du Liban. Ils n'ont aucun pouvoir, etc., etc. C'est effrayant, mais. Mais c'est très intéressant dans votre livre, cette histoire que de ce fameux Epstein, donc Epstein qui se considérait... Est-ce qu'il avait les yeux bleus, en fait, Epstein, je crois, non?
Oui, il avait tout à fait les yeux bleus. Et il avait également chez lui, à New York, une collection d'œil de verre qui était à l'origine fabriqué pour les soldats anglais.
Ah oui, à l'époque de la guerre de 14, etc. Non, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il avait récupéré tout un stock, il n'avait exposé que les yeux bleus et les yeux verts.
D'accord.
Des yeux d'Arien.
Bien sûr. Et
donc
je crois qu'il
était, quand même...
il était extrêmement raciste en plus, parce qu'il méprisait par exemple les Noirs, etc. Enfin, il n'avait pas de...
Ah oui.
Chez les petits mannequins, il n'y avait pas de Noirs, hein, je crois. Contrairement aux publicités actuelles.
Ouais. Non, il faisait essentiellement venir ses victimes des Balkans, des pays de l'Est, d'Ukraine, d'Estonie,
de
Russie.
Ouais.
Alors, c'était toujours le même modèle de fille.
Ouais. Alors ce côté-là m'a vraiment passionné dans votre roman. Donc. Et alors, qu'est-ce qui se passait dans ce fameux ranch du Nouveau-Mexique? Là, paraît-il, il avait des femmes enceintes. Enfin, il faisait des sélections de femmes porteuses, qu'il inséminait, qu'il faisait inséminer par son propre sperme, je crois.
Ça, c'était effectivement au Zorro Ranch, donc à côté de Santa Fe. Ça, c'était dans la dernière partie de sa vie. Il avait mis en place un système médical pour inséminer avec son sperme 20 femmes afin d'avoir 20 futurs bébés. Il semblerait qu'il y en ait un qui soit né, mais ça, c'est pas vérifié, mais c'est une rumeur qui court. Mais précédemment, le Zorro Ranch servait à d'autres activités. D'abord des activités de viol, et puis il y avait déjà une sorte de pouponnière, puisque beaucoup des filles et des jeunes filles, très jeunes filles qui étaient dans le système Epstein, tombaient enceintes. Certaines, ils leur interdisaient d'avorter en disant non, je vais te racheter le bébé. Et effectivement, ils rachetaient les bébés qui ensuite servaient à d'autres activités qui n'avaient plus rien de scientifique, mais qui étaient évidemment
de pédocriminalité.
Des viols.
Oui, c'est épouvantable.
Un système extrêmement au point.
Et probablement, d'ailleurs, ces bébés finissaient aussi dans le trou ou incinérés ou.
Ils servaient d'abord.
Après exploitation. Après exploitation, c'est ça.
Exploitation d'abord sexuelle et ensuite pour la vente d'organes et enfin mise à mort. Parfois en cours de cérémonie.
Ouais. Alors, on a même dit qu'il y avait une... j'allais dire un atelier, mais... Non, un cabinet de dentiste sur l'île.
Il y avait un cabinet de dentiste, mais il faut savoir que la femme qui a remplacé dans son cœur, si j'ose dire, Ghislaine Maxwell, c'est une femme biélorusse qui s'appelle Katrina Chouliak et qui était dentiste. Et donc, il est possible... Il est possible que ça soit pour s'exercer. Je ne sais pas si c'était pour des tortures, ce siège de dentiste.
Peut-être tout simplement pour soigner les dents.
Pour soigner, ça m'étonnerait. On a dit des choses horribles là-dessus, je ne vais pas le répéter.
Moi, je pense que le type était quand même... il était quand même atteint d'un autre côté. J'imagine parfaitement que s'il avait une carie, qu'il ne veuille pas aller chez le dentiste du coin et ils disent, qu'il fasse venir quelqu'un que... pour qu'on le soigne chez lui.
Il l'avait à domicile. Il était avec lui.
Donc il faut bien.
Il était avec lui depuis 2012.
En dehors du fait de cette femme, ça je peux imaginer par ailleurs qu'il ait eu chez lui tout ce qu'il fallait pour parer à un problème médical quelconque, parce qu'il était beaucoup trop parano pour aller se faire soigner chez le commun des mortels.
Oui, peut-être. Parce qu'on l'a raconté sur des histoires.
On sait, cela dit. Comme on a vu qu'il était nazi, on se souvient tous du film Marathon Man, où le siège de dentiste devient un lieu de torture absolument épouvantable. On peut aussi imaginer ça.
On a raconté aussi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'on arrachait les dents de certains enfants parce que dans les fellations, pour éviter qu'ils mordent le sexe des hommes.
Effectivement, mais ça n'a pas été...
Ça n'a pas été filmé.
Ça n'a pas été prouvé. Filmé, peut-être. Ça a peut-être été filmé,
c'est
mais
vrai.
Vu qu'on n'a pas droit aux vidéos, on risque pas...
Et puis, si je peux me permettre, c'est pas pour donner un détail sordide, mais on a vu dans des corps qui ont été retrouvés, retrouver un corps sans dents, c'est difficile à identifier, par exemple.
Ah oui, il y a ça aussi, effectivement.
C'est tout à fait juste.
Bien sûr.
Non, mais tout cela est... on est dans le summum de l'horreur, des choses absolument... C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens n'en parlent pas, n'osent pas en parler, et disent, non, c'est des fabulations, des trucs, des machins, parce que c'est tellement énorme, monstrueux.
Ouais, le problème, c'est que ce sommet du sordide, il existe depuis très longtemps.
Oui, bien sûr.
Non, mais qu'il est sorti depuis très longtemps, que tout ça... C'est sous nos yeux depuis des années, quoi, tout ça.
Pas des années, pas des siècles.
J'ai dit des années. Mais c'est, je veux dire, sous nos yeux, là, parce que qu'on en parle, et par exemple, on reprend l'affaire du trou, qui maintenant commence à dater quand même, ça fait plus de 30 ans. Mais Régina Louf, les témoins X, elle ne parle pas d'autre chose. Elle parle de torture, elle parle de filles qu'on force à accoucher, on leur prend leur bébé, elle parle de trucs absolument épouvantables, et en fait, il y a des choses qui sont très documentées, d'ailleurs il y a eu de grosses enquêtes, ça a été étouffé, et in fine on les traite de dingue, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est, je le dis souvent, Epstein c'est un iceberg qui a émergé depuis longtemps. La différence, y compris en France, y compris en Europe, la différence, c'est que là, il y a le gouvernement américain qui a décidé de publier Une partie, des millions de
son enquête. Effectivement, c'est pas nouveau. Laurence, tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2013, je suis tombé sur une vidéo de toi et plein de reportages de Car Zero, mais une vidéo de toi où je me souviens, je sais pas, elle date de quand, tu pourras nous le dire, où tu parlais déjà que tu avais vu des viols de bébés.
Oui.
Et moi, Laurence, quand je t'avais vu, je ne te connaissais pas, je commençais tout ça, et je me suis dit, putain, mais elle délire ou c'est vrai, enfin, tu vois, j'ai douté. Et en fait, j'ai été, moi, sur les sites internet de le Darknet avec des hackers, j'ai vu tout ça. Et en fait, j'ai pris une claque comme toi, comme t'étais dans la vidéo. Parce qu'en fait, tu dis, mais putain, mais si ça existe. Et en plus, c'est pas des cas isolés. Il y en a des milliers tous les jours qui sont publiés, en fait. C'est dingue.
Bon, alors voilà. Eh bien, l'émission est finie, on me le dit. J'ai une chose tout de même à dire. D'abord, il y a dimanche 10, il y a un hommage à Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Et puis, on n'a pas pu avoir Pierre Barnéanias qui n'a pas pu se joindre à nous. Mais je souligne qu'il a mis en ligne sa série de 10 films de 52 minutes intitulée « C'est notre petit secret » sur citizen-v.com. Citizen-v.com. Vous pouvez aller regarder ça, c'est très passionnant.
Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorne, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 7 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.